Salut tout le monde, aujourd'hui on parle d'Avatar 3, vous l'aviez deviné. Avatar 3 vient de sortir et comme à la sortie de chaque Avatar, on a droit à la même rengaine. C'est spectaculaire visuellement, mais bon Dieu, ça raconte pas grand chose. C'est le genre de truc qui est répété en boucle depuis des années. Un petit peu comme dans une moindre mesure, Dune c'est une pub pour parfum. Juste parce que t'as 3 plans esthétisés sur Zendaya dans le volet numéro 1. Et comme d'habitude sur ce genre de truc répété mécaniquement, c'est intéressant et surtout nécessaire de gratter un petit peu au-delà pour comprendre ce qu'il en est réellement. Du coup, dans le contexte d'un film comme Avatar 3, dont on parle surtout pour ses visuels, là, j'ai vraiment envie de parler d'écriture. On va se demander ce qu'Avatar 3 raconte, et surtout pourquoi il est écrit comme il est écrit. Mais avant toute chose... Vous connaissez ? Surfer sur le net aujourd'hui, vous le savez, c'est dangereux. Entre le vol de données, le non-respect de l'anonymat, les arnaques et j'en passe, surfer sans une protection, à savoir un bon VPN, mais quelle idée ! NordVPN, c'est un outil ultra simple, pratique et efficace qui anonymise et sécurise votre connexion. Et il le fait très très bien. Résultat, vous pouvez naviguer sans avoir à redouter les trackers, les sites frauduleux et les pubs invasives. Vous êtes invisible, et ça fait du bien. Ça s'installe juste en quelques clics, sur ordi, tablette ou téléphone avec un seul compte, et ça change littéralement la vie. En un seul clic, vous pouvez vous connecter à un autre pays, changer votre adresse IP, et vous connaissez la musique. Ça permet d'avoir accès à toutes sortes de meilleures offres, que ce soit les billets d'avion, les hôtels, ou même les catalogues des plateformes de streaming qui changent d'un pays à l'autre. Du coup, vous avez accès soudainement à un catalogue bien plus large. Genre, vous voulez voir l'intégrale de Kaamelott ? Eh ben, un clic, vous vous connectez en Australie, et vous avez littéralement tout dispo sur la chaîne YouTube officielle de la série.
Ah, c'est pas faux.
Et au passage, surtout, ça évite de laisser les algorithmes vous enfermer dans une petite bulle d'habitude qui vous atrophie la curiosité. Là, un petit coup de VPN, bim, vous changez votre adresse IP et vous avez accès à un monde nouveau de choix et de recommandations qui n'ont pas été décidés à l'avance à votre place. Et ça, c'est inestimable. C'est pas faux. Donc, avec ce code spécial, bénéficiez de 4 mois gratuits sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Et pendant les 30 premiers jours, bah, c'est satisfait ou remboursé. Merci NordVPN. Retrouvez toutes les infos en description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne vidéo. Bon, avant de parler scénar, on va évacuer l'évidence tout de suite. Visuellement, c'est... démentiel. J'ai eu la chance de le voir en IMAX 3D et le degré d'immersion, de mise en présence tactile avec cet univers et le vertige que tu te tapes, là on est vraiment sur la pure différence entre voir quelque chose et en faire l'expérience. Et au niveau de l'expérience là, Weta FX et toutes les autres boîtes qui sont impliquées sur le projet ont fait un boulot. Sincèrement, dans ces conditions, j'aurais pu me taper un documentaire de 4 heures immersif sur les navis, sans voix off, sans narration, sans rien. Juste pour les regarder aller à la pêche et se raconter des histoires autour du feu, ça m'aurait convenu. Après, à ce degré-là, c'est aussi le problème d'une telle différence entre simplement voir un film, comme on le verrait sur sa télé ou sur un téléphone, et en faire l'expérience, au sens où il a été pensé, là, en l'occurrence, 3D, IMAX et compagnie. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter à côté d'un cinéma IMAX, même assez peu de gens. Et du coup, est-ce qu'on a vu le même film ? À ce degré-là, ça devient compliqué vraiment de faire la différence. Si je l'avais vu dans un cinéma classique, je vous raconterai pas ce que je suis en train de vous raconter. Il y a un autre truc qui revient aussi souvent quand on parle des avatars, c'est cette sensation en fait de voir plus de la même chose avec une meilleure exécution technologique. Donc un meilleur grain de peau, une meilleure... Je comprends parce que ça je l'ai ressenti aussi à certains moments du film, et on en avait un petit peu parlé dans la vidéo « Le cinéma c'était mieux avant » avec les séances de Marty. Pour une franchise comme Avatar qui reste sur une esthétique très cohérente mais qui reste plus ou moins... toujours la même, on est sur Pandora, avec les mêmes forces en présence, et au bout d'un moment, quand tu as juste, parmi le cahier des charges, finir le film par une immense bataille, il n'y a pas 300 000 manières de la représenter, et de mettre différentes forces en présence. Ça sera les navis contre les militaires. Donc il y a cette sensation de revoir plus de la même chose, mais c'est une impression qui est plus fondée sur les souvenirs que sur la réalité. Si tu mets les films côte à côte, la différence, mais elle saute aux yeux immédiatement. Bon, bien entendu, entre Avatar 1 et 2, là, ça va sans dire. Mais même entre 2 et 3, qui sont séparés par très peu d'années, on reste sur les mêmes archétypes, mais là, tu vois effectivement des environnements différents, des choix de mise en scène différents. Genre, Cameron a mis beaucoup plus l'accent sur le gigantisme, notamment en utilisant beaucoup de longues focales. Donc c'est des focales qui écrasent les perspectives et donnent l'impression, en fait, de quelque chose qui est beaucoup plus imposant dans l'arrière-plan. Il fait des trucs assez cousins de ce qui a été fait sur Rogue One, par exemple, avec différents effets de perspective, avec l'environnement, à un autre niveau de distance, les vaisseaux de l'armée, et ensuite les navics pour l'échelle qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus proches de la caméra. Et t'as ces effets vraiment vertigineux qui sont accentués par les longues focales, qui fonctionnent super bien. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, on reste sur les mêmes archétypes visuels et narratifs. Et ça, le film en a parfois conscience. Notamment, il va y avoir des spoilers. Notamment dans la dernière partie du film, quand Jack Sully réunit à nouveau les clans, la voix off, qui est pas nécessaire comme la plupart des voix off, la voix off qui dit « Eh oui !» Et Jack Sully, d'ailleurs, il est allé réunir les clans. Voilà. Et t'as un montage visuel de 20 secondes où il fait « Blablabla, blablabla, venez vous battre. » Le truc est torché en 20 secondes. Et allez, on passe à la bataille. Regardez mon beau plan. Salut. C'est le François du montage. Je vais faire quelques interventions par-ci par-là dans la vidéo parce qu'une fois n'est pas coutume, entre le moment où j'ai enregistré la vidéo de base et les jours qui ont suivi, sur certains points, mon regard sur le film a évolué, ou en tout cas c'est précisé. Du coup, je vais popper par-ci par-là pour apporter un complément à ce que je raconte. Et là, puisque je parle de la bataille finale, à mon sens, vraiment, tous les plus gros défauts du film sont concentrés ou en tout cas révélés dans son dernier acte. Que ce soit déjà au niveau de cette sensation de déjà-vu, parce que là, j'étais un petit peu clément dans ce que j'ai raconté, mais effectivement, il y a certains trucs qui sont copier-coller des épisodes précédents et donne l'impression à certains moments de voir un remake avec une puissance de feu supérieure, ou au niveau de l'écriture. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Mais donc, pour en venir au scénario, comme vous le savez, les Avatars ont toujours été extrêmement critiqués sur ce plan-là, en mode « c'est extrêmement simpliste ». Oui, Avatar, c'est Pocahontas et Danse avec les loups chez les Schtroumpfs. Oui, tout comme Danse avec les loups et Pocahontas s'étaient forgés sur des archétypes de récits qui existaient bien avant eux. Il y a toujours ce truc un petit peu bizarre où tu te dis, si le scénario d'Avatar 3 avait été traité avec un autre type de forme, par exemple si le film avait coûté 20 ou 30 millions de dollars et qu'il était raconté sous la forme de, je sais pas, Dark Crystal, avec des marionnettes, personne ne moufterait sur le scénario.
Si.
Tout le monde sera en mode « Oui, c'est un scénario à l'ancienne, d'une simplicité enfantine qui permet l'émerveillement. » Le truc aujourd'hui, c'est qu'on est entré dans une période où les films, à une certaine ampleur, sont critiqués bien avant d'être critiqués pour ce qu'ils sont, ils sont critiqués pour ce qu'ils représentent dans le monde actuel et dans l'industrie actuelle. Parfois à raison. Le truc, c'est que comme on entre dans un monde de plus en plus cyberpunk, où tout est détenu par des conglomérats déshumanisés, bah forcément, tout ce qui est énorme et tout ce qui est arrosé de maille, de pépettes, de flouze, devient immédiatement suspect. Et si on ajoute à ça le vieux clicheton qui consiste à dire que dès qu'un cinéaste est particulièrement attentif au visuel, ça signifie que ses œuvres manquent de substance et de fond, ben voilà, là on a un cocktail parfait pour une franchise comme Avatar qui est arrivée à la fin des années 2000 et qui s'est installée dans l'imaginaire culturel comme le cinéma du futur. Bon après, quand tu manies des milliards et que tu sais que tu vas être au centre de la discussion publique planétaire, la responsabilité c'est pas la même, on est d'accord. Donc, pourquoi Avatar 3 est écrit comme il est écrit? On va se mettre 2 minutes, ou un petit peu plus, dans les pompes des scénaristes à qui tu dis « Mon gars, tu vas écrire le prochain Avatar ». Alors, Avatar 3 a été co-écrit par Cameron, mais il a co-écrit le film avec un couple de scénaristes. Vous allez écrire le prochain Avatar. Chaque mot que vous allez coucher sur la page va coûter des dizaines de millions de dollars et déclencher une arborescence de processus décisionnels sur lesquels il sera quasiment impossible de revenir. Et chaque victoire et chaque échec que vous allez avoir dans l'écriture de cette histoire va déterminer le destin et l'avenir de tout un écosystème dans l'industrie qui tourne autour du succès ou non de ces films. Voilà, déjà, de base, pas de pression. Pas de pression. Le truc, c'est que Avatar a toujours voulu avoir un storytelling avant tout classique. Ça, c'est pour une raison très très simple. C'est que l'ambition du film, c'est avant tout t'immerger dans un univers où tu vas recevoir toutes les informations de l'image, et Dieu sait qu'il y en a sur une forme à laquelle on n'est pas habitué. Et là, encore une fois, je parle de la manière dont le film a été pensé à la base. Du coup, depuis le début, l'idée, c'est de ne pas parasiter la bande passante du spectateur avec des structures de récit qui vont complètement le bousculer. Parce que la bande passante est occupée déjà par autre chose. Après, avoir une structure de récit classique et simple, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas raconter des choses intéressantes. Encore une fois, simple et simpliste, c'est pas du tout la même chose. Mais sur le storytelling classique, pour arriver à un résultat qui paraît fluide et simple, ça demande un boulot en amont qui est bien entendu invisible, parce que quand un truc devient fluide, tu ne soupçonnes pas. C'est ça le délire, tu veux pas montrer les coutures à l'image et dire oh, « regardez comme j'ai sué ». Non, faut que ça aille de soi. Mais pour arriver à ce résultat, c'est un travail de fou. Alors juste, je reprécise, parce que c'est important, ici je vais utiliser Avatar 3 pour parler de storytelling. c'est-à-dire l'artisanat d'écriture au niveau des personnages et comment les événements qu'ils traversent font écho aux thématiques de ce film en particulier. Mais pour ce qui est d'Avatar en tant que franchise, les qualités et surtout les défauts du truc restent exactement les mêmes d'un film à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé en long, large et en travers, du coup je ne vais pas y revenir en détail, que ce soit la version ultra romanticisée des natifs, qui sont forcément tous ultra canons et ont un rapport à la spiritualité qui est esthétiquement très plaisant. Du coup, on te demande de ressentir de l'empathie pour des gens qui sont différents, mais qui sont finalement pas si différents que ça, et pour lesquels on a créé de toute façon de l'empathie de manière assez artificielle. Ou aussi le fameux truc du Avatar œuvre écologiste. À ce compte-là, Astérix est une œuvre profondément écologiste, parce que Idéfix n'aime pas qu'on déracine des arbres. Du coup, voilà. Mais si vous voulez, sur les défauts d'Avatar en tant que franchise, est-ce qu'on peut en dire un son de cloche un petit peu différent, qui change de ce qu'on peut lire un petit peu partout, je vous conseille un excellent, excellent texte de Vincent Capès, de la chaîne Zoanima, qu'il a publié sur Facebook il y a quelques jours, et avec son accord, je l'ai mis dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez le lire. Je vous le mets avec le lien vers Zoanima, abonnez-vous, c'est une tuerie cette chaîne. Il y parle notamment de la place des imaginaires aujourd'hui, et surtout de la panne des imaginaires partagés, comme le montre Avatar. Je suis pas forcément d'accord sur tous les points, mais c'est un texte brillant qui donne beaucoup de matière à penser, et Dieu sait qu'il y en a besoin aujourd'hui. Et à celles et ceux qui adorent réagir à chaud, si vous voulez réagir à ce texte dans les commentaires, s'il vous plaît, faites un pas de côté, d'abord. Si votre réponse n'est pas constructive, argumentée, et surtout, soyons fous, courtoise, ça sera une perte de temps pour tout le monde, autant que pour vous-même. Voilà. Donc t'es le scénariste, t'es devant ta page blanche, et là, il y a un horizon entier de possibilités narratives qui s'offrent à toi. Quel chemin tu vas emprunter? Donc tu te demandes, tiens, Avatar, ça part de quoi? En tant que franchise, c'est quoi la thématique? La thématique, c'est l'enracinement et le déracinement. Ça ne parle que de personnages qui sont déracinés, qui cherchent à se réenraciner quelque part. Ça parle des humains qui sont déracinés de la Terre, qui vont sur Pandora, un endroit où ils n'arrivent pas à s'enraciner parce que l'environnement est hostile, et ils choisissent de s'enraciner artificiellement par la violence. Les avatars, c'est littéralement déraciner des humains de leur identité corporelle d'humains pour les transformer en autre chose. À la fin du premier, le clan de la forêt est déraciné de son environnement, et dans le deuxième, va devoir se réenraciner dans un nouvel environnement et un nouveau clan, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, ça pourrait pas être représenté de manière encore plus littérale. Les navires avec leurs tresses qui se connectent en mode USB à leur planète, par un système de choses qui ressemblent à des racines. Donc, le deuxième volet était attaché à l'élément de l'eau, parce qu'il parlait d'adaptation, sur le fait que les Sully refont leur vie dans ce clan de l'eau, et du coup, soit comme l'eau, prend différentes formes.
Be water, my friend.
Et c'est ce qu'ils font, et dans le process, ils évoluent en tant qu'individus. Et le troisième volet est attaché à l'élément du feu, tout simplement parce qu'il parle de deuil. Le deuil du personnage de la famille Sully qui est mort à la fin du 2, pendant cette bataille qui a traumatisé tout le monde. Donc les cendres, ce qu'on a perdu, et le feu, l'espèce d'explosion d'émotions ingérables qui va habiter les personnages et qui va les plonger dans une colère et un désarroi total. Avec cette tentation, soit de se replier sur soi, et de refuser l'extérieur qui nous a blessés, soit prendre sur soi et arriver à rester ouvert à cet extérieur-là. Du coup, bon, thématiquement, t'as ça. Point de départ pour le scénariste. Tu fais face à ton horizon de possibilités, et là, tu réduis l'éventail des possibles. Comment tu poses tes pions d'une manière qui fonctionne à tous les niveaux? Truc avec un bon choix de scénario, particulièrement sur un storytelling classique, comme celui-là, c'est un choix de scénario qui fonctionne à plusieurs niveaux. Il fonctionne déjà narrativement, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est logique par rapport à ce qui s'est passé avant et sur quoi ça débouche? Et il fonctionne aussi thématiquement. Qu'est-ce que ces choses concrètes révèlent des personnages qui traversent ces événements et comment ça les fait évoluer eux aussi? Écrire, c'est broder tout un réseau d'échos entre le narratif, le thématique, entre le petit et le grand. C'est broder tout un patchwork, on va dire, de choses qui fonctionnent constamment sur plusieurs plans en même temps. Donc, t'as ta situation de base. T'as les Sully qui sont en deuil. Ils traversent tous ce deuil différemment. Il y en a certains qui se replient, comme la mère, qui ressent une colère telle qu'elle ne sait plus quoi en faire. Elle se replie sur elle-même et elle se replie aussi sur sa pureté de Navi. Tout ce qui a trait à l'humain lui rappelle en fait ceux qui lui ont pris son fils. Donc, sans pouvoir l'admettre, elle ressent des choses inavouables envers Jake et envers ses enfants, parce qu'ils contiennent une part d'humain. À côté, t'as le père qui est plus dans le mouvement et la surcompensation par le mouvement, en voulant résoudre la question de leur sécurité et de leur avenir. Il introduit dans le clan des armes militaires. Ça part d'une intention de protéger les siens, mais en même temps, jusqu'où t'es prêt à aller pour défendre les tiens en devenant littéralement ton propre ennemi. À côté de ça, t'as tous les enfants qui traversent des choses différentes. Il y en a l'un d'entre eux qui se sent responsable de la mort de son propre frère parce qu'il a fait une erreur à un moment. Donc on commence littéralement avec une situation d'immobilisme, mais un immobilisme qui révèle les caractères des personnages. Juste à travers leur manière de gérer le deuil, tu poses exactement là où tout le monde en est et tu poses tes pions. Et l'élément déclencheur du récit qui va justement casser cet immobilisme, c'est, comme je le disais avant, un truc qui fonctionne à plusieurs niveaux. C'est le fait que Spider, leur enfant adoptif qui est humain, qui survit grâce à un masque à oxygène sur Pandora, et ben ses réserves d'oxygène sont pas éternelles. Pour assurer sa survie, ils sont obligés de le ramener au sien, littéralement le bannière du clan. T'as une nécessité narrative logique, mais qui thématiquement renvoie à des choses que les personnages sont en train de traverser. Parce que notamment, c'est une manière bien pratique de se débarrasser de lui. Parce qu'il y a cette tentation du repli qui est le plus clair chez la mère, qui lui dit littéralement « tu ne seras jamais un membre de cette famille ». C'est d'une violence, cette réplique, quand elle parle à Spider. Donc qu'est-ce que tu fais scénaristiquement avec cette cellule familiale qui se nécrose, cette cellule familiale qui a déjà explosé allégoriquement, avec Jack Sully qui dit « cette famille n'est pas une démocratie » et il se met tous ses enfants à dos, bah, tu l'as fait exploser littéralement. Donc en voulant raccompagner Spider au sien, ils sont attaqués par la tribu du feu et ils sont séparés. Et blessés. Donc ils vont bien entendu finalement arriver à tous se retrouver, assez rapidement d'ailleurs, je les aurais séparés plus longtemps personnellement, et ils vont retourner à la case départ au village, donc on a une sorte de mini voyage du héros, et là, d'un œil distrait on pourrait se dire, mais tout ça était un petit peu stérile, c'était juste pour avoir une scène d'action quand ils sont attaqués par la tribu du feu. Sauf que non, en faisant ça, t'as présenté par le mouvement et l'action les méchants, qui vont prendre vraiment beaucoup de place dans le film, tu rappelles les personnages à la mort qui rôde et à sa réalité, tu mets bam, un électrochoc et soudainement, ah, je reprends conscience qu'il y a une réalité autour de moi et la possibilité de perdre encore plus de gens qui me sont chers, ça crée émotionnellement en fait un déclic qui va avoir beaucoup d'importance plus tard, et surtout t'as la création de l'hybride, Spider, qui va devenir le MacGuffin du film, il a plus d'oxygène, il va mourir, et par désespoir, la fille incarnée par Sigourney Weaver va, avec son rapport particulièrement mystique et unique à la planète, va faire en sorte que la déesse bouleverse tout son équilibre interne et lui permette, en fait, d'une manière qui est en plus scientifiquement observable, comme c'est plus tard le cas dans le film, va lui permettre de respirer l'atmosphère. Si tu vas un petit peu au-delà du Deus Ex Machina, littéralement, puisque Sigourney Weaver fait appel à la déesse pour changer Spider, toute l'armée va vouloir capturer Spider pour l'étudier et comprendre comment on fait respirer les humains sur Pandora pour la coloniser. T'as quelque chose qui narrativement établit les capacités mystiques du personnage de Sigourney Weaver. Et surtout, thématiquement, c'est un retour de bâton. Parce qu'il est celui qui ont voulu utiliser la raison de l'oxygène et de sauver Spider pour se débarrasser de l'élément extérieur. Un problème que tu veux virer sans le résoudre te revient en pleine face, décuplé. Ça va littéralement crever l'abcès. En mode, avant de reconstruire, il faut aller au bout de la destruction. Et ils vont se dire des choses d'une violence. Enfin, le père qui dit à demi-mot à son fils qu'il est responsable de la mort de son frère, le frère en question qui va être sur le point de se donner la mort. Enfin, c'est sombre. Particulièrement dans un film de ce type qui est souvent catégorisé de façon cliché, en mode, oui, film pour enfants, machin, c'est gentil. Putain, là, il y a une exploration froide, et réaliste de ce qu'est le deuil et de ce qu'est la réalité d'un truc dont tu sais que c'est injuste que tu le ressentes, mais que tu vas pas pouvoir garder en toi. Ce qui fait qu'il y a cette espèce de spirale à la fois de colère et de culpabilité qui n'en finit plus. Comme ils ont tous atteint le fond du trou, chacun à sa manière, tu les mets dans une situation où finalement, ils peuvent se relever, évoluer et commencer à se reconstruire.
I'll give you guns.
Ah, et au fait, le colonel Quaritch, on fait quoi de lui ? Quaritch, qui était vraiment complètement attaché à ce qu'il est à la base, c'est-à-dire un marine, comment il gère son statut de navy, maintenant qu'il est dans un corps de navy ? Rétro-pédalage, on fait du rétro-engineering, on revient un petit peu plus tôt dans le scénario, et si on le parachutait littéralement dans la forêt où les personnages sont séparés, en lui faisant traverser les mêmes dangers, en l'occurrence, la tribu du feu qui veut tous les buter. Là, on a déjà un trope qui est assez prévisible, mais moi, que j'aime bien, c'est les ennemis qui doivent devenir alliés de circonstance. Là, on a le colonel Quaritch qui est obligé d'avoir une discussion à tête reposée hors de tous leurs enjeux habituels avec Jack Sully, qui va lui dire « Mec, il faut peut-être que tu comprennes qu'il y a autre chose. » Le fait que Quaritch ait rencontré la tribu du feu va faire que plus tard, pour continuer son entreprise de destruction avec l'armée, il va faire appel à la tribu du feu comme un allié de circonstances potentielles. Donc, Juste en parachutant Quaritch avec les autres, soudainement on a un truc encore une fois qui fonctionne à plusieurs niveaux. On lui donne une nouvelle force de frappe pour plus tard, en renouvelant en fait sa qualité de méchant, et on accentue son dilemme. Le simple fait de s'allier à la tribu du feu, d'un côté ça renforce son identité de Quaritch, de militaire qui veut juste récupérer Jack Sully et casser la gueule à tout le monde, et d'autre part, c'est une manière indirecte d'explorer ses nouvelles racines. C'est un truc qui l'éloigne de ce qu'il est, et en même temps qui le rapproche de ce qu'il est. C'est un dilemme permanent. Plus tard, Jake est capturé, emmené sur la base militaire pour être exécuté. La mère vient pour le sauver. Comment est-ce qu'elle peut causer de la destruction significative, on va dire, dans cet environnement pour sauver Jake? Une flèche surmontée d'un explosif. Du coup, comment elle a ça? Ah oui, rétro-engineering, on retourne dans l'acte 1. On fait en sorte que Jake, quand il veut introduire les armes militaires dans le clan, lui donne cette flèche surmontée d'un explosif, parce qu'il dit « je sais que tu veux pas utiliser des flingues ». Cette flèche incarne le côté hybride. Cette flèche, c'est un truc à la fois Navi et humain. Et le fait que la mère finisse par utiliser cette flèche, c'est littéralement la mère qui accepte le côté hybride de sa famille. On n'en fait pas tout un cinéma dans le film, et juste avec le fait de tirer une flèche, soudainement t'as du character building.
Attends, mais c'est ma flèche!
Et enfin, Jake, Neytiri et Spider se sont évadés, ils sont isolés dans la nature, et Jake décide de tuer son fils adoptif de sang-froid. Parce que si Spider est récupéré par l'armée, ça veut dire que tous les humains pourront respirer sur Pandora, et tout le monde est foutu, au niveau des clans. Il devient littéralement ce que Neytiri était au début du récit, pour des raisons complètement différentes. Pendant qu'ils vont dans la forêt, Neytiri derrière se nettoie le visage, elle se nettoie en fait la peinture, le body paint rouge qu'elle s'était mis pour s'infiltrer, se faire passer pour un membre du clan du feu, elle se reconnaît dans ce que son compagnon est devenu. T'as des personnages vraiment qui sont partis extrêmement loin au début du récit, l'un de l'autre, à des moments émotionnels complètement différents, qui n'arrivent plus à se retrouver, et qui à travers ce qui s'est passé, l'urgence des événements, et l'imminence de la mort, se sont réunis, mais de tellement loin, ils ont pris tellement d'élan en fait, qu'ils se sont croisés. Je me suis saoulé moi-même. En montant ce passage de la vidéo, j'ai presque eu la tentation de l'effacer tellement j'ai l'impression d'enfoncer toutes les portes ouvertes du monde. Mais justement, c'est nécessaire pour montrer comment le travail de broderie dans le scénario fonctionne et comment des choses justement qui vont de soi, en apparence, vont pas forcément de soi et sont là de manière très réfléchie parce qu'elles permettent certaines choses. D'autant plus sur un sujet compliqué comme celui du deuil. Et c'est aussi nécessaire pour comprendre pourquoi ça déraille après. Mais on y vient. Voilà, continue machin. Donc ça rend un récit, quand c'est bien fait, extrêmement satisfaisant dans ses résolutions, mais ça peut aussi le rendre prévisible. C'est le problème de ce type d'écriture, donc il faut parasiter ce côté parfois prévisible par la manière d'habiter en fait ces tropes qu'on connaît tous, sans même en avoir conscience, on les connaît par cœur quoi. Ça passe par l'interprétation, la qualité des dialogues, la subtilité en fait des échos qu'on a brodés. Et à ce niveau, un truc dont on parle assez peu souvent concernant Cameron, c'est qu'il est très bon sur les castings. Donner la responsabilité d'habiter tous ces tropes à des gens qui vont le faire avec panache. Genre Steven Lang, Quaritch, il est très très bon. C'est la meilleure chose de toute cette franchise pour moi. Et pas uniquement dans sa manière parfois de cabotiner, mais même dans les détails qu'il va disséminer. Par exemple, pour sa première discussion avec Jake Sully, quand Jake commence à lui dire « Mec, il y a peut-être une autre manière de vivre pour toi ?» Juste la manière dont, à la fin, il se fait... Il s'engonce en lui-même comme si d'un seul coup il se mettait à dormir. Il y a des détails comme ça d'interprétation que t'attendrais pas forcément pour ponctuer ou conclure des scènes, mais il y a toujours cette manière de faire en sorte que ça vive. À la base, l'acte 3 en fait, il m'apparaissait juste comme narrativement paresseux et pas très intéressant, comme c'est souvent le cas dans ce genre de film, t'attends juste que ça finisse, voilà. Mais en fait, plus les jours passent et plus ce qui m'apparaît, c'est que ce troisième acte démolit littéralement tout ce qui a été raconté avant. Ce qui est con, parce que pendant les deux premiers tiers, l'écriture est solide. Mais le troisième acte, c'est comme si la franchise, avec les défauts dont on a parlé avant, reprenait le contrôle du film. Notamment quand t'as autant de personnages, bah forcément tu vas devoir en sacrifier quelques-uns. Et il y en a certains, tu dois essayer de les faire exister en deux micro-scènes pour leur donner un petit peu quelque chose, une sorte de même un semblant d'épaisseur. On le voit notamment sur le personnage de Kate Winslet, où tu sens que là, son personnage est uniquement écrit pour servir finalement le payoff à la fin du film. On le voit aussi au niveau du personnage de Sigourney Weaver, qui est pourtant un personnage principal, mais qui disparaît du film pendant un peu plus d'une heure. Il y a un moment, au début de l'acte 3, où j'étais en mode... Et au fait, elle est où? Ah, elle est là! elle est revenue. C'est juste que le film a choisi de ne plus raconter ce qu'elle traverse. Et son personnage est vraiment, comme je le disais un petit peu avant, utilisé comme un littéral Deus Ex Machina, où elle fait appel au dieu, à la déesse, pour créer le MacGuffin du film, et à la fin, l'espèce de courroux divin qui va les aider à remporter la bataille. Du coup, là, tu dis, oui, bon, Deus Ex Machina, très bien, très bien. Quand elle déchaîne le courroux des dieux et qu'elle envoie des créatures tuer les militaires, elle a ce truc où elle dit aux créatures, « Kill them all !»« Tuez-les tous !» Et là, tu dis, pour un film qui est autant thématisé autour de cette violence qu'on a en nous, cette confusion des émotions, et cette manière de réaliser que finalement, la violence ne menait nulle part, à la fin, t'as Sigourney Weaver qui dit juste « Je veux du sang, tuez-les tous !» Vraiment avec cette espèce de côté froid et presque ce plaisir à voir les militaires mourir. On a fait tout ce chemin thématiquement, tout ça pour qu'à la fin, le personnage de Weaver se comporte comme si ce chemin n'avait pas été parcouru. Ce « tuer les tous », ça pourrait être un vrai moment de dilemme. Ça pourrait être le poids écrasant d'une tuerie de masse qui apparaît comme inévitable. Et là, tu vois le cycle de la violence. Mais non. Juste « tuer les tous », ah, ça fait plaisir. Ça y est, on a gagné. C'est là que tu vois, en fait, le paradoxe qui a toujours été là chez Cameron, mais qui, là, dans Avatar, apparaît dans toute sa splendeur, c'est qu'il est fasciné, quoi qu'il arrive, par la violence guerrière. Ça a donné des films géniaux, comme Aliens, mais dans le cas d'Avatar, ça donne des messages qui deviennent schizo. Ici, en l'occurrence, dans ce film, la violence ne résout rien, il faut la dépasser. Mais en fait, si. La violence résout tout. Elle résout carrément tout. Mais le principal problème d'écriture qui reste dans le film, pour moi, c'est le colonel Quaritch. Comme on en parlait un petit peu avant, il a tout cet arc qu'il met dans un dilemme profond. Il est tiraillé entre son passé avec l'armée et son futur potentiel, en acceptant le fait qu'il est devenu Navi. Au début du film, il a cette discussion avec Jake qui commence à semer le doute en lui, apparemment. Au milieu du film, il a une deuxième discussion avec Jake sur la base militaire. Jake lui dit plus ou moins la même chose. À la fin du film, quand il doit faire son choix ultime, Jake lui redit encore la même chose. T'as déjà un truc vraiment en termes d'écriture qui patine. Tu l'as vu, tout au long du film s'intégrer de plus en plus chez les Navi, en montrant des doutes, le fait qu'il se ramène dans la salle de commande encore une fois, en pagne, et juste vraiment fringué comme un membre de la tribu du feu, jusqu'à ce que la supérieure lui dise « You're grounded ». En gros, je vous mets aux arrêts. Elle le défait de ce qu'il rattachait encore à l'humain. Et là, tu dis « Putain, ok ». Du coup, dans la dernière partie du film, il va épouser un petit peu ce nouveau chemin qui s'offre à lui, ou en tout cas, ne pas se comporter comme le Quaritch qu'on a vu dans les deux films précédents. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se comporte comme le Quaritch qu'on a vu dans les deux films précédents. Avec le trope dans la bataille finale du « Ah, on a gagné !»« Ah, mais non !» Et ainsi de suite. Donc, à la fin, le « Ah, mais non !» pendant la bataille finale, c'est lui qui arrive avec la tribu du feu pour donner l'impression au héros que tout est perdu. Et là, en fait, dans l'acte 3, Quaritch reste le Quaritch qu'on connaît. Mais pas parce que le scénario le traite en mode « Non, il a fait son choix et en fait, il reste attaché à son passé. » Plus en mode « Parce qu'on a besoin de ça. » pour justifier la plus-value spectaculaire, on va dire, dans la dernière bataille. Quaritch, avec le « Tuez-les tous » de Weaver, c'est vraiment ce qui montre le plus toute la confusion du dernier tiers du film, dans son message. C'est un aveu d'échec. S'il y avait bien un personnage à faire évoluer jusqu'au bout pour embrasser non seulement la thématique du film, mais aussi la thématique de la franchise qui est enracinement-déracinement, c'était lui. Mais non, enfin, impossible de transformer l'essai. Et c'est même pas construit comme un payoff pour... Il y avait possibilité d'évolution, mais non, certains restent prisonniers de ce qu'ils ont été ou de la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes. C'est pas construit comme ça. C'est vraiment construit en mode... Ouf, Quaritch reste Quaritch, voilà. Quel bon vieux Quaritch. Quand il se jette dans le gouffre, à la fin, j'ai vraiment eu l'impression de voir Cameron qui se jette lui-même en mode... J'aime bien vos trucs de hippie, là, j'aime bien le retour à la nature, la non-violence, tout ça, c'est cool. Mais putain, j'aime trop... Les morts spectaculaires, j'aime trop les batailles. Ciao, je me casse bosser sur la bataille finale d'Avatar 4. En commençant cette vidéo, en fait, je voulais montrer qu'Avatar 3 raconte effectivement quelque chose et plutôt bien. Et effectivement, jusqu'à un certain point. Donc là où je veux en venir, en fait, c'est... Quand vous dites qu'Avatar et Avatar 3 sont mal écrits, vous parlez de quoi ? Vous parlez du film en entier ? Vous parlez du troisième acte ? Vous parlez de la franchise ? Vous parlez de l'idée que vous vous faites de la franchise ? Vous parlez du narratif ? Vous parlez du thématique ? Mettre tout ça dans un même panier, ça rime à rien. Et on peut parler des défauts évidents et importants d'Avatar, que ce soit ce film ou en tant que franchise, sans avoir à balayer d'un revers de main les vraies qualités d'écriture et d'artisanat d'écriture qui se trouvent dans ce film. En l'occurrence, pendant quasiment 2 heures, avant, hélas, d'être gâché à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Avatar 3, et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.